Se llama Thomas Piketty, es un economista de la más importante escuela de ciencias sociales de Francia. Se encuentra en Cartagena para el AI Festival y va a asistir a invitaciones en la Universidad de los Andes y en el Externado de Colombia. Por favor, Tatiana, de la bienvenida al señor Piketty.
Bonjour, monsieur Piketty. Merci beaucoup de parler avec nous et nous vous donnons la bienvenue en Colombie. On est ravis que vous soyez là.
Bonjour, merci.
Pregúntele a monsieur Piketty, Tatiana, ¿cuál va a ser su tema en el AI Festival?
Monsieur Piketty, pouvez-vous nous parler de votre exposé ici au festival, au AI Festival? De quoi allez-vous parler?
Oui, alors donc je vais venir parler de mon livre Le Capital au XXIe siècle, qui est maintenant disponible en Amérique latine, en langue espagnole, de même que dans plus de 40 langues dans le monde. Et voilà, l'objectif de ce livre, c'est de mettre vraiment cette question des inégalités, qui est très importante en Colombie, où les inégalités sont très fortes, de mettre cette question dans une perspective historique, internationale, pour mieux comprendre ces enjeux.
Nos dice que el objetivo es presentar su libro, El Capital en el Siglo XXI, que ya está disponible en América Latina, se puede comprar, y también dice en 40 lenguas alrededor del mundo. Y el objetivo es hablar de este tema de las desigualdades sociales, que es un tema además muy importante aquí en Colombia, y ponerlo en una perspectiva histórica internacional.
Como autoridad mundial y como un crítico del capitalismo, pídale, Tatiana, que nos dé luces para resolver un gran dilema que tenemos en Colombia por la crisis económica debido a los bajos precios del petróleo. ¿Hacer o no hacer una reforma tributaria estructural y cuándo? Porque nos dicen que si no la hacemos, bajamos el nivel en las calificadoras de riesgo. Pero si la hacemos, es ponerle más impuestos incluso a la gente más pobre.
Monsieur Piketty, en tant qu'expert, pouvez-vous nous donner votre opinion sur le besoin d'une réforme fiscale structurelle en Colombie, parce que on dit que c'est nécessaire pour améliorer l'image de la Colombie à l'étranger face aux agences de qualification, mais que ça pourrait avoir un impact négatif envers la population et son pouvoir d'achat.
Je pense qu'il y a plusieurs réformes fiscales possibles et peut-être certaines réformes peuvent faire plaisir aux agences de notation, mais je pense que c'est important aussi d'avoir d'autres critères pour évaluer des réformes fiscales. De façon générale, la principale leçon de mon travail, c'est que on a besoin d'institutions fiscales et notamment de fiscalité progressive sur les revenus, sur les patrimoines, de façon à contrôler l'évolution des inégalités et de façon à s'assurer que de larges groupes de la population bénéficient de la croissance. Et je pense qu'un pays comme la Colombie a un niveau d'inégalité extrêmement élevé quand on fait des comparaisons internationales et a un système fiscal qui est relativement peu progressif. Et donc je pense que c'est important d'avoir ça en tête lorsqu'on parle de réforme fiscale en Colombie.
Nos dice que obviamente hay varios tipos de reforma fiscal que se podrían implementar. De seguro habría algunos que le gustan más a las agencias de ranking internacionales, pero de manera general lo que él trata de exponer en su trabajo es que hacen falta instituciones fiscales y reformas que apliquen una fiscalidad progresiva sobre el patrimonio y sobre los ingresos de la población, y esto permitiría controlar más las desigualdades y hacer que grupos más grandes dentro de la población puedan beneficiarse del crecimiento, dado que en Colombia la desigualdad es bastante fuerte comparada con otros países y que aquí se ve que hay una fiscalidad, o sea, un sistema fiscal poco progresivo, pues sí, ese sería el camino que él propone, el de un sistema fiscal más progresivo.
Y precisamente esa que es su tesis, y él habla sobre la desigualdad. Quiero preguntarle sobre cómo ve el futuro de poder cerrar esa brecha de inequidad en América Latina y en Colombia. ¿Él cree que en los próximos años en nuestro continente estamos yendo hacia reducir esa brecha de la desigualdad entre las personas o estamos yendo a ampliarla?
comment voyez-vous, dans le sens des inégalités, l'Amérique latine et son évolution? Pensez-vous que le continent est dans un chemin de réduire cet écart entre les classes sociales, ou plutôt de l'agrandir?
Alors, l'Amérique latine, de façon générale, fait partie des régions les plus inégalitaires du monde. C'est dû à des facteurs historiques de long terme. Et c'est dû au fait que dans beaucoup de pays d'Amérique latine, les élites économiques et financières n'ont pas accepté des réformes fiscales et sociales qui auraient été nécessaires et qui seraient encore aujourd'hui nécessaires pour réduire les inégalités. Et dans beaucoup de pays d'Amérique latine, on a par exemple des impôts très lourds sur la consommation payés par les classes populaires et les classes moyennes, parfois beaucoup plus lourds que les impôts demandés sur les personnes qui détiennent le plus de patrimoine et qui souvent payent des impôts relativement limités. Donc je crois qu'il faut se rendre compte que en Europe, en Amérique du Nord, ce sont à la suite d'énormes chocs au XXe siècle que les élites ont fini par accepter des réformes fiscales et sociales qui ont permis de réduire les inégalités et en même temps d'avoir plus de croissance, parce que pour avoir de la croissance à long terme, on a besoin d'avoir un modèle relativement équilibré entre les différents groupes sociaux, sinon la croissance n'est pas soutenable ni politiquement, ni socialement, ni économiquement.
Lo que nos contesta Camila es que evidentemente América Latina es uno de los continentes con mayor desigualdad en el mundo, y esto tiene que ver con factores históricos de largo alcance. Tiene que ver en su interpretación, en la interpretación del señor Piketty, en que las élites económicas en estos países no han aceptado las reformas sociales y fiscales necesarias para reducir esa brecha, para reducir la desigualdad. Por ejemplo, nos da un ejemplo, los impuestos sobre el consumo son muy muy duros, muy pesados aquí en América Latina, y finalmente estos impuestos sobre el consumo los paga toda la población y también los sectores modestos y más pobres, en cambio que, por ejemplo, los impuestos sobre el patrimonio, sobre las clases con más ingresos, pues no son tan importantes, tan fuertes.
Y
dice que hay que darse cuenta de que estas reformas económicas, fiscales y sociales en Europa y en América del Norte se dieron durante el siglo XX después de unos golpes, de unos shocks muy importantes a nivel social, de revueltas, de disturbios, de crisis. Entonces, eso es importante. Es sí. Importante tener un modelo más equilibrado.
Perfecto. Diego tiene pregunta en Nueva York.
Sí, le quiero preguntar sobre la situación económica global, porque la Reserva Federal de los Estados Unidos está preocupadísima y están viendo qué van a decir en unos meses. George Soros, un economista de talla mundial, dice que estamos cercanos a lo que sería una burbuja similar al 2008. Hay muchas personas preocupadas, obviamente, por el desaceleramiento de China, etcétera. ¿Cómo lo ve él? ¿Cómo encontrar una burbuja tan difícil como es hacerlo?
Monsieur Piketty, comment voyez-vous la situation dans cette année 2016 en face de toutes les menaces qui sont répertoriées, la Chine, tout ce qui est les spéculations aussi sur les marchés? Quelle est votre opinion?
Je pense que le système financier international est extrêmement fragile. Il est structurellement extrêmement fragile et on peut avoir de nouvelles crises à chaque moment. Donc il faut absolument se tenir prêt. Il faut que les autorités publiques, les autorités de régulation bancaire, financière, budgétaire se tiennent prêts pour faire face à ces chocs. Et je pense aussi qu'on ne peut pas simplement se contenter de demander aux banques centrales d'éteindre l'incendie. C'est vrai que c'est facile d'imprimer des milliards de dollars ou des milliards d'euros pour essayer de calmer la situation. Mais ce n'est pas suffisant. On a besoin d'avoir plus de transparence financière au niveau international. Il y a une grande partie du secteur financier qui est extrêmement opaque. Et si on n'a pas des réformes plus structurelles en faveur de la transparence financière, alors l'action des banques centrales ne suffira pas pour pour stabiliser l'économie mondiale.
Nos dice que el sistema financiero sigue siendo muy frágil y hay que estar listos. Las autoridades, tanto políticas como económicas, monetarias, deben estar listas para nuevos shocks, para nuevas crisis. No nos podemos contentar, no nos podemos, estar satisfechos simplemente con que los bancos centrales apaguen el incendio imprimiendo más dinero y poniendo más dinero en circulación. Hace falta más transparencia para el sistema financiero que considera es sigue siendo opaco.
A propósito de situación, sistema financiero y Europa, ¿cree el señor Piketty que Europa necesita reorganizarse, transformarse política y económicamente, de manera que Bruselas no sea el único, interlocutor, el único elemento político de la Europa comunitaria?
A propósito de Europa, Croyez-vous que le continent, que les institutions ont besoin d'une transformation, d'une réforme politique et économique pour faire que, en sorte que Bruxelles soit pas le seul interlocuteur de l'Europe?
Je pense que les pays de la zone euro doivent absolument aller plus loin dans l'union politique, l'union budgétaire, l'union fiscale. C'est pas possible d'avoir une monnaie unique si vous continuez d'avoir 19 dettes publiques différentes, 19 taux d'intérêt différents sur lesquels les marchés financiers peuvent spéculer, 19 impôts sur les grandes sociétés qui en sont en concurrence les uns avec les autres et qui font que les plus grandes sociétés multinationales ne payent d'impôts nulle part. Donc si on veut conserver la monnaie unique, il faut qu'on ait en même temps une dette publique en commun, il faut qu'on ait un impôt sur les sociétés en commun, il faut qu'on ait une politique migratoire en commun. Et ça, ça demande de changer les institutions à l'intérieur de la zone euro, avec sans doute un nouveau parlement de la zone euro pour les pays qui veulent aller plus loin dans l'union politique, donc pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Espagne, pour l'Italie, et puis les pays qui ne veulent pas d'union politique plus forte, comme le Royaume-Uni ou la Pologne, doivent rester en dehors, mais ne doivent pas empêcher les pays qui veulent s'unir davantage de s'unir davantage.
Hazme un favor, Tatiana. Agradezco al señor Piketty, es un honor hablar con él, con una agenda tan complicada como la que tiene. Invitamos a la gente a escucharle en el Hey Festival, en la Universidad de los Andes, o en el Externado de Colombia. Nosotros lo volveremos a llamar a final de año para lo de la entrega del premio del otro.
Eh bien, merci beaucoup, monsieur Piketty, d'avoir parlé avec nous. Et puis on vous rappellera pour votre prix Nobel à la fin de l'année. Ça te confirme?
Merci beaucoup pour vos questions.
Merci. Au revoir, monsieur Piketty. ¿Qué dijo al final este prestigioso economista?
Que los países de la zona euro necesitan reprofundizar lo que es la unión fiscal y económica. Dice que no es posible tener 19 países con sistemas fiscales diferentes, con impuestos sobre las grandes sociedades diferentes, impuestos que además compiten los unos contra los otros. No es posible eso queriendo tener una moneda única. Hay que lograr más unión en términos de sistema fiscal, de impuestos, también, por ejemplo, de política migratoria, de política. Y dice que los países que quieren profundizar esta unión pues deberían tener un nuevo parlamento, países como Francia, Alemania, Italia, España, y los que no quieren, los que quieren quedarse fuera, como Polonia, y cita otros, pues deberían hacerlo, pero sin impedirle a los demás profundizar esa unión.
Tatiana, muchas gracias. Rafael, hemos hablado de las duras